aspect de la réalisation, de l'efficacité du travail, d'une vision dialectique du travail, une vision dialectique de la matière. Il faut avoir une vision réaliste de ce qu'est la matière. Notre univers existait avant nous. Il existera sans doute après nous. Pas sûr, mais il y a des chances. Quand il s'agit de l'expérience de l'amour d'amitié, si l'amour d'amitié était exhaustif par rapport à la connaissance de l'ami, par rapport à la personne de l'ami. C'est plus juste de dire ça. Il n'y aurait pas ce phénomène, cette expérience de la mort de l'ami. Mais la philosophie contemporaine met très en lumière tout le problème de la mort. Et je crois qu'on doit repenser dans une philosophie réaliste le problème de la mort et pas se laisser prendre par toute la philosophie existentialiste qui pose la mort évidemment comme quelque chose de très absolu. Et on comprend perspective de Sartre, la mort est un absolu. Bien sûr, c'est pour ça que Sartre a eu des angoisses terribles avant de mourir. Je connaissais des amis de Sartre très bien. Et ils me racontaient combien il était dans l'angoisse. Alors je dis, est-ce que vous croyez qu'il serait bien que j'aille avec vous? Alors ils ont poussé un cri, oh, surtout pas, parce que si on disait qu'on venait avec un curé, il en mourrait. Alors j'ai pas été par miséricorde pour lui, mais j'ai prié pour lui. Pour Sartre, voyons, retrouver Sartre dans l'éternité, il comprendra que le néant n'est pas premier. La mort, c'est par rapport à la mort de l'ami qu'il faut situer le problème de la mort. Dans le réalisme, vous voyez, il meurt des quantités de personnes dans le monde, par tous les jours. Et ça nous échappe complètement. Oui, on regarde ça, on s'y habitue. C'est comme les infirmières et les infirmiers et les médecins dans les hôpitaux. Ils s'habituent. Ils s'habituent terriblement à la mort. Et c'est assez effrayant. Oh oui, il va mourir, pourquoi le soigner encore? Et on en arrive à ça, vous voyez, un regard qui n'est plus le problème de la mort. La mort n'est connue vraiment comme expérience que par la vie, puisque je n'ai pas l'expérience de ma mort. L'expérience de ma mort, je n'aurai plus d'angoisse. Alors, je n'ai pas l'expérience de ma mort. Personne d'entre nous n'a l'expérience de sa mort. On sait qu'on mourra un jour, mais on n'a pas l'expérience. Tandis qu'on a l'expérience de la mort d'un ami. Du moins, on peut avoir l'expérience de la mort d'un ami. Et dans l'expérience de la mort d'un ami, on comprend que si mon amour pour lui était substantiel, il ne mourrait pas. On a tous senti ça. La mort de l'épouse ou d'époux, la mort d'un ami, la mort d'un enfant, la mort de quelqu'un qui fait partie de notre vie de façon directe. Ben, la mort est une brisure, une expérience irréductible. Je peux pas la reprendre. C'est ça qui est terrible. C'est quelque chose que je peux pas reprendre. Je peux pas faire une expérimentation de la mort. Évidemment, dans l'existentialisme de Sartre, par exemple, la seule expérience absolue qu'on peut avoir, je dis, l'expérience qui touche l'absolu, c'est la mort. Et c'est pour ça que les premiers disciples de Sartre se sont suicidés. Mais Sartre ne s'est pas suicidé. C'est très significatif, ça aussi. Il fallait aller jusqu'au bout de l'expérience. Parce que l'expérience était ce qu'avait l'absolu. Alors, par le fait même qu'elle est jusqu'au bout de l'expérience, on peut regarder la mort. C'est comme, si vous voulez, dans la philosophie heideggerienne, on verra ça tout à l'heure en philosophie première, l'angoisse est nécessaire. On entre en philosophie que par l'angoisse. Alors, une expérience plus radicale que l'expérience. professeur, donc professeur Marois de Paris, professeur à la faculté de médecine, qui est très, très intelligent et qui s'intéresse à ces problèmes de la biologie et de la philosophie, faisait devant un groupe de personnes, 70 personnes, gens qualifiés. Ce que je suis. font ça spontanément. Donc le vivant qu'on étudie, c'est l'homme. Et l'homme, c'est moi. Et je pourrais faire qu'un autre ait la même expérience que moi. Et ensemble, étudier ce que c'est que cette expérience pour, à travers la subjectivité immanente du vivant, réaliser une analyse réelle. Donc, nouvelle expérience. Nous avons donc progressivement, si nous comptons, c'est bien la cinquième expérience d'un type tout à fait particulier, à partir de laquelle je peux essayer de découvrir les causes propres du vivant de ma vie. Et j'aurai par là la découverte philosophique de l'âme. Alors j'insiste un tout petit peu parce que je crois ça tellement important aujourd'hui. Est-ce qu'au fond, le philosophe doit encore parler de la distinction de l'âme et du corps? Vous savez, depuis Merleau-Ponty, ce n'est plus très à la mode. Et puis, ça se répand même dans l'ordre de la catéchèse. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, c'était en Suisse, dans le Valais. J'aime beaucoup le Valais. Parce que le Valais est un canton très particulier. J'allais dire le canton le plus proche de ce que nous pouvons nous apprécier, mais... Et dans le fond d'église, il y a toujours des papiers qui circulent comme ça. J'en prends un, je le regarde, et puis on dit dedans, au bois du catéchisme, surtout ne parlez plus jamais aux enfants de la distinction de l'âme et du corps. C'est une distinction ancienne qui ne signifie plus rien. Distinction aristotélicienne. Et tout juste, je disais pas thomiste, mais presque. Et grec, on disait distinction grecque, qui n'a rien à voir avec le christianisme. J'ai essayé de voir d'où ça venait. J'ai vu que c'était pas propre au Valais. Vous voyez bien où tout ça pouvait venir. Alors, on s'intéresse à ça. Point de vue philosophique, c'est quand même intéressant. Il y a 3 ans, un petit groupe de théologiens laïcs, que j'estime beaucoup, m'avait demandé de faire un petit topo. Il m'avait dit ça très sérieusement. J'avais répondu sur la distinction de l'âme et du corps. Peut-on encore, après Merleau-Ponty, parler de la distinction de l'âme et du corps comme un différé de philosophie de l'âme, différé de philosophie du corps par rapport à l'âme? Est-ce qu'on peut encore faire ça aujourd'hui? Alors, je vais essayer de faire un petit topo philosophique sur la découverte de l'âme. Et qu'est-ce que c'était que l'âme? L'âme spirituelle de l'homme. Alors on a discuté après ensemble, puis celui qui était un peu le président du groupe m'a dit c'est très bien, c'est très vrai, c'est très intéressant cette distinction de l'âme et du corps, mais hélas, ce n'est plus sur le marché philosophique. Alors je dis, ah tiens, alors maintenant c'est le marché philosophique qui est la mesure de la vérité. Alors je dis, ah non, c'est sûr, mais que voulez-vous, on doit tenir compte de ça, on doit s'adapter au marché philosophique. Encore une fois, c'était des théologiens catholiques, des jeunes théologiens catholiques merveilleux. Alors, quand on dit ça, vous voyez, toutes les erreurs qui sont contenues, c'est intéressant à voir. Premièrement, dites-vous bien que la distinction de l'âme et du corps est une distinction. expression qui vient des traditions religieuses de l'Inde. Il faut toujours se rappeler ça, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on dit traditions religieuses de l'Inde, tout le monde accepte. Tu vois, il y a un prestige de l'Inde qui est extraordinaire, comme tradition religieuse. Or, les traditions religieuses, c'est scientifiquement, du moins historiquement prouvé. La distinction de l'âme et du corps ne vient pas du tout de la philosophie grecque. C'est faux. C'est Platon qui l'a reçu de l'Inde. Puisqu'il y a des liens, maintenant on sait de plus en plus, de Platon avec l'Inde. Et que la distinction de l'âme et du corps provient tout simplement de traditions religieuses de l'Inde. Platon a reçu cette tradition et il s'est posé la question, est-ce que c'est une distinction que le philosophe doit accepter ou pas? Et on peut dire que toute la philosophie de Platon, c'est la philosophie de l'âme. Ça, je crois. Parce que le corps, c'est le tombeau. Le corps, ça n'a aucun intérêt pour Platon. Ce qui est intéressant, c'est l'âme. Aristote a repris cette distinction de l'âme et du corps au plan philosophique pour voir comment on pouvait découvrir cette distinction et comment cette distinction avait un intérêt au plan philosophique. Donc, voyez comment, de fait, cette distinction de l'âme et du corps a pénétré dans la philosophie grecque par l'Inde. Et je souligne que, de fait, après Aristote, c'est la philosophie stoïcienne et les meilleurs historiens de la philosophie grecque disent tout simplement les stoïciens rejettent la distinction de l'âme et du corps et reviennent à la tradition philosophique grecque. Je note ça parce que c'est important et intéressant, parce que je crois que c'est capital, la distinction de l'âme et du corps. C'est pas du tout quelque chose de secondaire, c'est quelque chose de capital. Si je veux comprendre ce que c'est que l'homme et tous les problèmes qui se posent aujourd'hui avec l'avortement, ce qui est vrai, c'est que le mot âme n'est pas premièrement un mot philosophique. Et je crois que ça, c'est aussi très important à se le rappeler. Le mot âme provient de traditions religieuses. C'est pour ça qu'on a toujours peur de parler de l'âme. Parce qu'il y reste une petite saveur religieuse. Le mot âme est à pénétrer dans la philosophie. Mais il est premièrement un mot de tradition religieuse, comme le mot Dieu. Le mot Dieu pénètre dans la philosophie par les traditions religieuses. Ce n'est pas les philosophes qui ont découvert ça en premier lieu. Et ce n'est pas les philosophes qui ont parlé les premiers de l'âme. Et donc ça garde toujours une petite saveur religieuse. Le philosophe regarde ce qu'est l'âme en disant principe selon la forme du vivant. Vous voyez ? Alors à ce moment-là, le mot âme est découvert par le point de vue philosophique. Mais l'expression âme provient des traditions religieuses. Donc, comprenez bien qu'un des gros problèmes, pour ne pas dire le problème premier, de la philosophie du vivant, donc de l'homme comme vivant, c'est la découverte de l'âme. Et là, on voit bien que le philosophe n'a pas le droit d'abdiquer cette philosophie du vivant. Il n'a pas le droit de laisser la science biologique comme si c'était la seule qui pouvait parler du corps humain. Le corps humain, c'est un corps vivant. C'est pour ça que le cadavre n'est que d'une manière équivoque un corps humain. Parce que justement, il a été un corps vivant. Il a été le corps humain. Mais quand il ne vit plus, ce n'est plus au sens rigoureux. Le corps, c'est le corps d'un homme. Il a été le corps d'un homme. Mais le corps humain est un corps vivant. Et si le corps humain est un corps vivant, le corps humain ne peut se comprendre qu'à partir de l'âme, comme corps vivant. Là, il y a quelque chose de très important à saisir. À partir de la découverte de l'âme, le philosophe essaie de comprendre ce que c'est que l'âme humaine. Et le philosophe peut connaître l'âme humaine. Il faut savoir ce que c'est. C'est un des grands problèmes philosophiques et je crois très très actuel. Parce que la négation de la distinction de l'âme et du corps, vous comprenez très bien comment, pour Merleau-Ponty, on ne peut plus distinguer l'âme et le corps. Puisque on part de la conscience. Si je parle de la conscience, je n'ai jamais conscience d'une âme séparée. J'ai toujours conscience de ce que je suis. Et ce que je suis, c'est cette réalité complexe qui cependant a une unité dans sa complexité. J'ai toute une série d'opérations humaines qui sont mes opérations et qui sont toutes les miennes. Il y a une unité du sujet et il y a la complexité des opérations humaines. Et c'est cette complexité et cette unité qui m'obligent de découvrir une source propre de ma vie humaine. Ma vie humaine a une unité. Donc là, il y a un très très gros problème, difficile, puisqu'on s'affronte de fait aujourd'hui à toute une perspective de philosophie qui ne veut plus la distinction de l'âme et du corps. Il faut essayer, si on veut entrer dans une philosophie réaliste et voir ce que c'est que la philosophie du vivant, entrer dans ce problème de l'âme humaine. Ne vous posez pas trop la question de savoir s'il y a une âme en dehors de l'homme. C'est très intéressant comme problème frontière. L'âme de la vache. Pas commode du tout de savoir ce que c'est. L'âme du singe. C'est intéressant, point de vue évolution, de savoir que la différence, c'est vraiment l'âme spirituelle qui fait la frontière entre les deux. J'arrive alors, maintenant, à réfléchir sur ces cinq expériences qui sont comme les cinq voies conduisent à l'homme. Et je dis bien cinq voies qui me conduisent à l'homme. Et ces cinq expériences sont irréductibles. Et cependant, ont quelque chose de commun. Ces cinq expériences ont quelque chose de commun. Parce que ces cinq expériences, toutes, touche une réalité qui existe, qui est autre que ma pensée, qui est autre que mon amour, qui est autre que mon travail. Donc ceci est. Qui n'est pas, au sens strict, une expérience. Je dirais que c'est une méta-expérience. C'est ce par quoi toute expérience existe. Et c'est quelque chose de radical. Ceci. Regarder cette expérience pour elle-même. Et dès que je regarde cette expérience pour elle-même, je suis donc en présence d'une nouvelle voie d'accès à la réalité et à l'homme. Et ce sera la philosophie première qu'on a appelée métaphysique. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons reprendre l'expression et le terme de philosophie première, qui est la seule authentique, vous savez bien, puisque le mot métaphysique a été inventé par des bibliothécaires. Je n'ai rien contre les bibliothécaires, mais ce ne sont pas nécessairement des philosophes. On a perdu les œuvres d'Aristote, on a redécouvert les œuvres d'Aristote, et alors on a mis tous les livres de la philosophie, de la nature, les uns après les autres, puis on s'est trouvé devant un livre qui n'était plus la philosophie de la nature, qui n'était plus la philosophie du vivant. Alors on l'a dit métaphysique, après la physique. Le mot métaphysique, c'est pas Aristote qui l'a appelé. Sur les bibliothécaires. C'est curieux, hein, c'est le terme des bibliothécaires qui a eu beaucoup plus de succès que le terme du philosophe. Ça fait le suffrage universel, ça va, c'est comme ça. Suffrage universel est pour la métaphysique, mais l'intelligence est pour philosophie première. Aristote appelle, à la suite de Platon, philosophie première. La philosophie première, c'est la philosophie de ce qui est en tant qu'être. Et je crois qu'aujourd'hui, après Heidegger, qui a célébré l'enterrement de première classe de la métaphysique, il faut revenir au terme philosophie première. Il faut savoir que je mets philosophie première tout simplement pour reprendre le terme d'Aristote. Parce qu'il a beaucoup d'avantages. Vous voyez, quelqu'un comme Husserl parle de philosophie première. Et Heidegger, lui, a un sens de la métaphysique qui est le sens de la métaphysique de Wolff. Donc de la scolastique décadente. Et dit que la métaphysique, elle a existé, elle est très importante, mais maintenant on entre dans quelque chose de nouveau qu'il nomme ontologie fondamentale. Alors, je ne vais pas dire ontologie fondamentale, puisque ça c'est Heidegger qui l'a inventé. J'aime mieux reprendre tout simplement le terme propre et premier de philosophie première. On va essayer d'entrer dans cette philosophie première. Vous voyez, avant, faisons un peu le bilan. C'est important de faire le petit bilan de ce que nous avons jusqu'à. Donc, nous avons les trois moments. Fatscherer, l'activité artistique. Nous avons la nécessité. Et mon ami, c'est quelque chose qui est antérieur à l'amour que j'ai pour lui. Et puis, à partir donc de ces 5, 1, 2, 3, 4, 5, de ces 5 expériences, je vois qu'il y a quelque chose de commun dans ces 5 expériences. C'est le jugement d'existence, ceci est. Et ceci est présent. Dans les 5 expériences. C'est la philosophie de l'homme. Je dois chercher qu'est-ce que c'est que l'homme. Et je dois chercher qu'est-ce que c'est que l'homme d'une façon exhaustive autant que je le peux. Si l'expérience est quelque chose d'un point de départ et une source, je vois qu'au-delà de ces 5 sources, 5 expériences types que je ne peux pas nier, qui sont au-delà de tous les a priori. Évidemment, on peut discuter de savoir si l'expérience est un a priori. Je veux bien, on peut discuter de tout ça. On peut se demander si un AV c'est un AV. Vous savez, c'est la discussion. Une fois que j'ai assisté à une conférence, toutes les œuvres que nous avons d'Aristote ne sont pas d'Aristote. Je posais la question après. Je dis, mais alors, c'est qui? Ah, c'est quelqu'un comme Aristote. Parce qu'on reconnaissait que c'était la même personne. Mais c'était pas Aristote. Pourquoi? Parce qu'on disait que Aristote, la seule chose qui était d'Aristote, c'était les lettres qu'il avait écrites à Philippe de Macédoine. Tout le reste, c'était pas d'Aristote. Alors, je dis, c'est qui? Moi, c'est un génie comme Aristote, dont on ne sait pas le nom. Alors, on a l'impression, vous voyez, qu'à ce moment-là, toutes les hypothèses possibles, parce qu'il y a quand même une grande tradition sur les œuvres d'Aristote, qui continue. Est-ce que l'expérience est un a priori? Vous voyez, ça, c'est une très belle question. Hein. Il faut toujours se la poser. Est-ce que pour vous, l'expérience d'a priori? Eh bien, au-delà de l'expérience, interne ou externe, il y a le jugement d'existence. Alors, il y a quelque chose de tout à fait premier. Alors là aussi, on peut se poser la question, est-ce que le jugement d'existence est un a priori? Je vous raconterai des petites histoires là-dessus parce qu'il y en a des quantités, ça revient tout le temps là-dessus. Je ne dirai pas dans quel couvent, mais un couvent contemplatif très très connu, c'est pour ça que je ne nomme pas. On m'avait demandé de faire un petit cours sur l'éthique. Puis après, j'avais demandé, y a-t-il des questions? Alors, novice, mais déjà licencié en philosophie de l'Institut catholique de Paris, m'a dit, mais mon père, l'amour d'amitié, c'est conventionnel. C'est conventionnel. Donc, en parlant de l'amour d'amitié, de l'expérience de l'amour d'amitié, elle lui dit, mais est-ce que vous avez déjà aimé quelqu'un? Ah oui, eh bien c'est conventionnel. Vous l'avez dit. Je t'aime et c'est conventionnel. Vous l'avez dit ça. Ah mais non, mais si je réfléchis au point de vue philosophique, c'est conventionnel. Je dis, qu'est-ce que c'est conventionnel? Conventionnel, c'est quelque chose d'artificiel, qui s'ajoute. Est-ce que vous avez lu le traité de la philia? conventionnel. Il m'a dit oui. Il m'a dit oui, c'est conventionnel. Oh, je dirais, c'est triste. Votre amour pour Dieu, c'est conventionnel. Oui, c'est conventionnel. Bah alors, je dis, tout en vous est conventionnel. Mais oui, tout en moi est conventionnel. Bon, alors, il faut s'entendre, là. Vous dites naturel, conventionnel. Vous prenez, tout simplement, vous donnez un nouveau mot. Dire, mais il est conventionnel, c'est naturel. J'ai tourné en bourrique au bout d'un certain temps. Tous les autres éclataient de rire avec lui qui maintenait que l'amour d'amitié, que l'amour c'est du conventionnel. Alors oui, évidemment, si on en arrive là, quand vous allez acheter des carottes au marché, hein, vous allez demander à la marchande des carottes, parce que à Fribourg, il y avait toujours le marché le mercredi, j'aimais beaucoup d'aller regarder le marché, c'était un petit tableau, c'était merveilleux. Puis il fallait entendre des gens. Vous allez dire à la marchande des carottes, vos carottes sont-elles conventionnelles? Vos carottes sont-elles artificielles? Mais écoutez-les! Alors on fait comme pour les ours de mer, vous leur donnez des carottes et je t'affirme que les ours disaient que c'était naturel. C'est pas que c'était conventionnel. Quand on mange une carotte, on sait si c'est conventionnel ou naturel. Et on arrive à une telle bêtise qu'on ne sait même plus ce que c'est que le sol sur lequel on marche. Mettre tout en doute, même le terme d'un cours, si on met tout en doute, on ne peut plus parler, on ne peut plus rien dire, on ne vit plus. La philosophie doit être la philosophie de notre vie. Je vous l'ai dit au début, hein. J'ai dit, le philosophe est au service de l'homme. Si vous faites de la philosophie un jeu, une dialectique, alors c'est autre chose. Et si la philosophie est au service de l'homme pour mieux connaître l'homme, alors à ce moment-là, tout ce qui est humain et directement humain n'est pas conventionnel. N'est pas un a priori. Est-ce que c'est un a priori de toucher cette table? Quand je touche cette table, je la touche. C'est humain. Est-ce que parler, c'est conventionnel? Ah, la parole a quelque chose de conventionnel, c'est vrai. Mais l'expérience est antérieure à la parole. Là, il y a une question fondamentale au point de vue critique qui est très importante. Alors, je dis ce jugement d'existence. Ceci est présent à ces cinq expériences. Alors, ce qui est important, ça ce sera un problème de critique. Y a-t-il d'autres expériences que celle-là ? De poser la question. La philosophie doit être exhaustive. Je ne dis pas qu'elle fait une synthèse, mais elle doit être exhaustive. Elle doit rendre raison de tout le développement de l'homme. Développement réel de l'homme. Alors, c'est intéressant de voir que ce jugement d'existence, il est méta-expérience. j'aime mieux continuer sur la question de la nécessité d'une philosophie première. Oui, bien, j'ai pris un ordre génétique. Comment apparaît, parce que je crois que c'est très important, de la nécessité, comment apparaît la philosophie de l'activité artistique? Comment apparaît la philosophie éthique? Comment apparaît la politique, l'aspect génétique? Comment la nécessité de dépasser une philosophie pratique pour arriver à une philosophie spéculative? Première philosophie spéculative, la philosophie de la matière. C'est vrai, c'est ça. On travaille, travailler du chapeau, ça fait travailler, n'est-ce pas? philosophie première. Pourquoi ? Les autres, je comprends très bien. La philosophie du travail, c'est l'ordre du jour. L'amitié, c'est l'ordre du jour. L'éthique aussi. La politique aussi, ça, je comprends. Il n'y a pas de danger que ça périsse. Hein. Parce qu'on vit tout le temps. La philosophie de la matière, à la rigueur, on comprend. La philosophie du vivant aussi. Mais la philosophie première, pff, là, 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 à quoi ça sert ? C'était toujours la question au début de l'année à Fribourg. Il y avait toujours quelques étudiants qui posaient la question : vous enseignez la métaphysique, à quoi ça sert ? Là, je répondais : à rien. Parce que quand ça sert à quelque chose, c'est de l'ordre de l'utile. Et la métaphysique n'est pas de l'ordre de l'utile. Oh. Non, c'est pas de l'ordre de l'utile. C'est de l'ordre de la contemplation. La contemplation, c'est pas de l'ordre de l'utile. C'est la finalité de l'esprit. C'est évident que c'est pas efficace, la métaphysique, c'est pas immédiatement efficace. Mais c'est terriblement efficace. C'est pas la même chose. Parce que ça a une influence sur tout le reste. Alors, pourquoi la métaphysique ? Alors, je vous donne des raisons. Hein. Historiquement, je prends Aristote qui est le père de la métaphysique. Ça, on ne peut pas nier. On sait très bien comment Aubanc interprète la philosophie première d'Aristote. Cette science qui est sans objet, c'est pas ce que c'est. Et Aristote est le père, donc il faut voir comment c'est situé. Bon, il a situé la métaphysique, la philosophie première face à Platon. C'est pour dépasser Platon qu'Aristote regarde l'être. Platon regarde l'être aussi, mais l'un au-dessus de l'être. Et met le bien au-dessus de l'être. Et Aristote est en face de ça. L'être est identifié à l'intelligibilité. Donc l'être est au niveau de l'intelligence, du nous. Mais il y a au-delà de l'être, l'un et le bien. Or, le réaliste Aristote dit c'est impossible. Parce que l'un qualifie l'être. Et l'être ne qualifie pas l'un. Mais il reconnaît que l'être et l'un sont convertis d'une certaine manière. Ils se retrouvent partout. Partout il y a être, il y a un. Mais il dira que l'un est acolyte. C'est un très beau terme. L'un est acolyte. En grec, on voit très bien ce que c'est que l'acolyte. Celui qui accompagne. L'un est acolyte. Alors l'acolyte, il est où, devant ou derrière, ça dépend. Il y a les rangs de procession et les rangs de non-procession. Quand on est fatigué, l'acolyte est derrière. Et la rang de procession, l'acolyte est devant. Et l'un est devant, il annonce. Et l'un est derrière, il complète. Il est propriété. L'un est propriété de l'être. Mais s'il n'est pas l'être, il n'est pas au-dessus de l'être. Bon, ça a été le grand effort d'Aristote. Montrer que l'être Ça, c'est la signature. C'est la signature d'Avicenne. Parce qu'au fond, ça vient de l'arabe. Quand j'avais des étudiants qui connaissaient bien l'arabe, parce qu'ils étaient arabes, je leur ai demandé comment ce qadit, ce qui tombe en premier lieu, ce que vous traduisez ça matériellement, qu'est-ce qui tombe en premier lieu? Alors vous avez, on pense au puits de Jacob. Quand on repasse au puits de Jacob, à Sichem, on voit le brave qui fait dit le puits est profond, alors il prend un petit caillou. On entend, vous n'avez pas d'un temps, le caillou qui tombe dans l'eau, vous voyez, le puits est profond, kadit. Alors c'est le caillou. Primo kadit in intelle et tout ça. Donc dans le puits, dans la diligence, la première chose qui tombe, c'est la diligence. Évidemment, c'est imagé. Le mot kadit, venant de l'arabe, exprime ce que l'intelligence saisit, prend. Ce que l'intelligence prend en premier lieu, c'est Hens. Hens, ça demain traduit toujours Hens. Il. Quod. Est. Donc, cela qui est. Ce qui est. La première chose qui tombe dans l'intelligence, ce qui est. Et ça demain le répète, je vous dis, 175 fois ou 178 fois. Et c'est dans cet ordre-là, ce qui prouve que Saint-Dama, il tient ça. Et c'est là, on voit très bien comment il est aristotélicien. Parce que ça, c'est propre d'Avicenne qui a saisi ça d'Aristote. La phrase n'est pas directement d'Aristote. Aristote dit cela en ce sens que c'est la philosophie du... C'est la philosophie première, c'est-à-dire la philosophie de... Thomas d'Aquin a trouvé chez Aristote. Et je crois que si vous êtes attentif à ça, attentif à la philosophie, à la métaphysique, à la philosophie première, incluse dans la théologie, on peut pas dire autrement. Si on a des objections là-dessus, vous pouvez les noter au bureau. Demain, on répondra à ces objections autant qu'on le peut. Et au fond, après Thomas d'Aquin, la Sorbonne ayant condamné Thomas d'Aquin, faut pas l'oublier, puisque Thomas d'Aquin a préféré le païen au croyant. Il a préféré Aristote à Avicenne. Et c'est pour ça qu'on a condamné Thomas d'Aquin. Immédiatement après Thomas d'Aquin, on est retourné à Avicenne. Donc on est retourné à un néoplatonisme lié à l'aristotélisme. Une espèce de synthèse. Avicenne, c'est un peu une synthèse entre les deux. Et on voit tout de suite Henri de Gand, on voit Don Scott, on voit tout le XIVe siècle, qui est un siècle extraordinaire de diversité, de richesse. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir que, de fait, cette métaphysique, elle est difficile à garder. Alors, pourquoi la garder? Parce que si la philosophie est une philosophie de l'expérience, l'expérience implique le jugement d'existence. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le jugement d'existence qui m'oblige à penser le point de vue de la philosophie première. Nous allons le voir tout de suite. Deuxièmement, pourquoi suis-je obligé de maintenir la métaphysique si je suis chrétien? Pourquoi l'Église et le pape actuel et Paul VI disaient la nécessité d'une pensée philosophique réaliste et d'une philosophie première? Pourquoi? Parce que l'Église, Vatican I, l'Église, à la suite de tous les pères de l'Église, j'ai fait l'enquête exprès, parce que je voulais en avoir le cœur net. L'Église, à la suite de tous les pères de l'Église, affirme que l'intelligence humaine peut, par elle-même, découvrir l'existence d'un être premier, absolu, acte pur, qu'on appelle, selon les traditions religieuses, Dieu. Et toute la tradition d'Église, jusqu'à Luther, c'est Luther qui, le premier, affirme avec netteté l'intelligence humaine, à cause des conséquences du péché, est corrompue. Elle ne peut plus, par elle-même, découvrir l'existence de Dieu. Il faut la foi. Tandis que l'Église catholique a tout le temps maintenu ça, et après Luther, elle a maintenu ça, Vatican I. Vatican I affirme que l'intelligence humaine peut par elle-même découvrir l'existence de Dieu. Elle dit que c'est très difficile, que c'est rare, mais le peut. Il faut des conditions spéciales, c'est bien évident. C'est pas si commode que ça de faire de la métaphysique, hein. Faire de la philosophie première. Mais que l'intelligence humaine peut par elle-même. Et l'Église va jusqu'à dire que celui qui prétend que seul par la foi on peut découvrir l'existence de Dieu, bien, il est fidéiste. Et l'Église condamne le fidéisme. Fidéiste, c'est-à-dire celui qui, à la place de regarder l'intelligence humaine, peut affirmer l'existence de Dieu, dit seul le croyant peut affirmer l'existence de Dieu. Vous comprenez que c'est très important, ça. Parce que quand vous avez quelqu'un qui se dit athée, vous pouvez lui montrer que s'il creuse vraiment en cherchant la vérité, à tout prix, il découvrira la nécessité de poser un être premier. Donc un homme qui va jusqu'au bout des exigences de son intelligence doit Il faut que l'intelligence humaine touche ce qui est pour qu'elle soit capable de remonter jusqu'à la source première de l'être. Ça, nous essaierons de le voir. C'est aussi très intéressant et très important, et c'est pour ça que l'Église tient à une métaphysique, c'est-à-dire à une philosophie première de ce qui est en tant qu'être. Parce que c'est le seul moyen pour l'intelligence humaine de remonter jusqu'à la source première. Si je reste enfermé dans une philosophie du vivant, je ne peux pas, par le point de vue du vivant, découvrir un être premier. Alors ça, c'est très important de comprendre ça. Et c'est pour ça que l'Église maintient ça. Parce qu'on pourrait dire que c'est pas son domaine. Elle n'a pas besoin de maintenir ça. Oui, elle maintient ça. Elle le maintient à cause de ça. Et en plus de ça, si je n'atteins pas une philosophie première, si je n'arrive pas à découvrir la possibilité d'affirmer l'existence d'un être premier au plan purement philosophique, il ne peut plus y avoir de théologie scientifique à la manière de Thomas d'Aquin. Je ne peux plus avoir d'une théologie descriptive. C'est pour ça que Thomas d'Aquin, au début de sa somme, question 2 de la somme, se pose la question: l'intelligence humaine peut-elle découvrir l'existence de Dieu? Vous voyez, c'est un aspect critique du théologien qui, avant de commencer sa théologie scientifique, se pose la question: est-ce que l'intelligence peut par elle-même découvrir l'existence de Dieu? Si l'intelligence humaine ne pouvait pas par elle-même découvrir l'existence de Dieu, il ne peut plus y avoir de théologie scientifique. C'est impossible. Il n'y a plus qu'une théologie descriptive et une théologie biblique. On voit très bien chez les protestants, c'est ce qui arrive. Chez les luthériens. Alors, on peut dire que Hegel a essayé de redonner une théologie qui n'est pas descriptive, qui est dialectique. Et par la dialectique, il veut remonter jusqu'à Dieu et il veut même découvrir le mystère de la très sainte Trinité. J'allais dire, l'exigence d'une philosophie première peut s'entendre à cause du développement de la philosophie. Si je veux connaître l'homme dans toutes ses dimensions, je dois me poser la question: est-ce que l'attitude religieuse et confessionnelle, est-ce qu'elle relève de l'inspiration, d'une révélation, ou est-ce que l'homme, par sa nature, par son intelligence, doit affirmer l'exigence d'une activité religieuse, l'adoration? Est-ce que le philosophe peut parler d'adoration? Est-ce que le philosophe doit parler d'adoration? Est-ce que le philosophe doit montrer que l'attitude religieuse est propre et impropre à la personne humaine? C'est une exigence philosophique. Et cette exigence philosophique consiste justement à voir si les traditions religieuses qui affirment l'existence d'un être premier, Dieu, ou toutes les expressions qui expriment Dieu, est-ce qu'elles s'expriment quelque chose de réel ou est-ce qu'elles sont purement mythiques? En face des idéologies athées d'aujourd'hui, on doit pouvoir montrer le sophisme qui existe à l'intérieur d'une philosophie comme Feuerbach et à l'intérieur de toutes les idéologies athées. Montrer que la position des idéologies athées n'est pas philosophique. Parce qu'elle ne regarde pas l'homme dans toutes ses dimensions. Elle ne découvre pas l'homme tel qu'il est en réalité. Je vous donne un petit exemple là-dessus qui m'a beaucoup frappé. C'est à Fribourg, j'enseignais la position philosophique par rapport à Dieu. Alors au moment des examens, puisqu'il y avait un examen sur toutes les matières à la fin de l'année, je vois deux étudiantes qui viennent timidement. On doit passer un examen avec vous sur le problème de Dieu. Or, nous sommes athées. Elles disent, nous sommes allemandes. Nous sommes venus à Fribourg. Je dis, pourquoi vous êtes venus à Fribourg? On nous a dit qu'à Fribourg, on enseignait de la philosophie de façon intéressante. Alors, on est venus. Très bien. Alors, si vous êtes contente de l'année, ah oui, très contente, très bien, très bien. Avant l'examen, il faut dire ça. Et puis, alors elles disent ça, si ça m'a beaucoup frappé. Nous sommes athées, et on doit passer cet examen avec vous. Ben, je dis, écoutez, je ne vous poserai pas à l'examen de savoir si vous croyez en Dieu ou vous ne croyez pas en Dieu. Je ne vous poserai pas la question de savoir si vous avez compris les voies d'accès à l'existence de Dieu. Je verrai simplement si vous êtes intelligente. C'est-à-dire, si vous savez m'exposer d'une façon intelligente la position des idéologies athées et la position, par exemple, d'un Descartes, par exemple, d'un Aristote, par rapport au problème de Dieu. Tous les grands philosophes qui ont parlé de Dieu vont prendre ces positions-là. Ça, c'est des positions philosophiques, ça fait partie. Elle a dit, oui, c'était énorme, je comprends qu'un peu, je dis, écoutez, je vous donne tout simplement quelques aspects, hein, puis on verra bien. Ils ont passé un excellent examen. Alors, ce qui était le plus curieux, c'est au moment de la licence, où elles peuvent choisir les matières, donc elles peuvent très bien laisser tomber certaines matières et puis prendre librement la matière de choix, elles ont pris ce problème. Elles m'ont dit, ça vous étonne. Je dis, oui, ça m'étonne beaucoup, mais je vois que vous êtes intelligente. Puisque, en effet, c'est le problème philosophique numéro un, voulez-vous. Est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas? C'est quand même fondamental pour ma vie humaine, quoi. Et vivre sur le pari de Pascal, c'est pas très drôle, hein. Je fais comme si Dieu existe, mais au fond, je n'en sais rien. Ça tient un certain temps, mais... Et alors, Pascal dit, il faut faire tout comme si Dieu existait. Puisque s'il existe, il vaut mieux être dans ce point de vue-là. S'il n'existe pas, tant pis, on s'est trompé. Oui, mais... On s'est trompé, c'est vrai, c'est le problème numéro un de la vie humaine et le problème numéro un de la philosophie. Toute ma philosophie, elle est en vue de ça. Connaître ce qu'est l'intelligence humaine et connaître si Dieu existe et ce qu'on peut dire de Dieu. C'est pour ça que la philosophie a de l'importance. Et je, personnellement, pour moi, je vous avais dit que la position de Maréchal m'avait beaucoup intéressé. Voir le point de départ de la philosophie, je me suis dit ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir le terme des philosophies. En Suisse, on parle du ski de printemps. Alors on fait les sommets où la glace existe encore, où la neige existe encore. Alors les sommets. On va faire l'histoire de la philosophie européenne par les sommets. Pas mal le point de départ. Quel sommet de la philosophie de Marx? Quel est le sommet de la philosophie d'Aristote? Quel est le sommet de la philosophie de Hegel? C'est beaucoup plus intéressant de regarder les sommets parce que les sommets sont explicites. Les points de départ ne sont pas toujours explicites. Pour Aristote, il l'est, mais n'est pas toujours explicite. Quel est le sommet de la philosophie de Platon? Et comparer le sommet de la philosophie de Platon au sommet de la philosophie d'Aristote. Alors là, on a un os sur lequel on peut y aller. Alors, à l'examen, j'ai vu ces deux étudiantes allemandes arriver. Elles ont passé merveilleusement. trouvais ça très beau, vous voyez. Au fond, elles étaient sur le chemin de dire, mais nous l'avons pas encore découvert, mais c'est possible. Et non, non, on doit être sur la voie, on doit pas dire, on doit pas conclure, il n'existe pas, parce qu'au fond, on ne peut pas dire ça. Parce que dire, il n'existe pas, il faudrait connaître Dieu.
Sartre le dit admirablement ça. Il est malin, Sartre, vous savez. Il est très malin.
j'ai l'idée de Dieu, ce n'est pas Dieu. Je ne peux pas avoir l'idée de Dieu. Il a raison. Je n'ai pas d'idée de Dieu, d'idée au sens fort. Dieu, je ne peux qu'affirmer qu'il existe. Mais je n'ai pas d'idée de Dieu. Avoir une idée de Dieu, ce serait mettre Dieu dans une définition. Je ne peux pas définir Dieu. C'est pour ça qu'une philosophie qui ne regarde que les définitions ne peut pas aboutir à l'existence de Dieu. La définition, c'est quelque chose que je connais par genre et différents spécifiques. Or, Dieu est au-delà. Il transcende. Donc, il est au-delà de toute catégorie, de toute idée. Si vous pensez avoir une idée de Dieu, c'est faux. Vous ne pouvez pas avoir d'idée de Dieu. Vous avez le mot Dieu transmis par les traditions religieuses. Le mot Dieu. Le croyant, le chrétien, sait ce que c'est que le mot Dieu. Mais l'homme reçoit ce mot Dieu des traditions religieuses. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? J'ai pas d'idée de Dieu. Alors dira Dieu, le mot Dieu, c'est le Créateur. Selon les traditions religieuses, c'est ça, c'est le Créateur. Mais dans les traditions religieuses sur la création, si on a le temps, on verra ça. C'est quand même quelque chose de très très divers. Hein. Vous savez que la tradition sur la création la plus ancienne, elle est colombienne. Elle est très amusante. Très amusante. Au commencement était le soleil, le canard. Pour le canard enchaîné, vous voyez. Au commencement était le soleil, le canard. C'est comme ça que ça commence. Et le soleil dit au canard, il n'est pas bon pour toi d'être seul. Alors tu as des palmes, plonge dans l'eau, tu ramèneras la terre et je ferai l'homme. Curieux, comme une tradition religieuse sur la création. Alors c'est le soleil. Dieu c'est le soleil. Bon, il faut bien avoir une image. Dieu, je ne sais. Je ne connais pas la signification propre du mot Dieu. Mais j'affirme qu'il existe. Je ne peux pas définir Dieu. Vous voyez, c'est pour ça que le rationalisme rejette Dieu. Parce que Dieu, je l'atteins pas avec ma raison, je l'atteins avec mon intelligence. Et mon intelligence, elle peut dépasser la définition. Je ne définis pas tout. Aristote avait déjà dit, je ne définis pas tout. Vouloir tout définir, ce n'est rien définir, dit-il. C'est très beau. Au-delà des définitions, il y a la réalité que j'atteins. Je ne peux pas définir un individu. Chacun d'entre nous, on est indéfinissable. Donc quand on veut nous définir, c'est faux. Je suis indéfinissable. On a ça de commun avec Dieu. On est au-delà de toute définition. L'individu est ineffable. Il ne peut pas être défini. L'être ne peut pas être défini. Mais je peux avoir un concept d'être. J'ai un concept d'être, mais je n'ai pas de concept de Dieu. Métaphysique va me permettre, au terme, nous allons voir, de poser les voies d'accès par lesquelles j'affirme la nécessité de poser un être premier. Donc je pose son existence, mais ce qu'il est, ça me dépasse complètement. Mais il est le premier dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de l'amour, dans l'ordre de l'intelligence. Il est le premier. Il est source de tout. Et le point de départ, c'est le jugement d'existence. Ceci est. Quand je pose le ceci est, mon intelligence interroge ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être? Et ça, c'est capital à comprendre, ce passage, vous voyez. Et ça, c'est aussi très curieux, parce que on rejoint d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, la position de Heidegger. Quand Heidegger dit que ce qu'il y a de plus grand, c'est de dire qu'est-ce que c'est que l'être? Il nous reste là. Qu'est-ce que c'est que l'être? L'interrogation. Parce que l'interrogation, d'une certaine manière, va plus loin que l'expérience. Mais l'interrogation est dépendante de l'expérience. Elle va plus loin parce que elle formalise dès qu'on interroge. Alors, il y a ce problème-là sur lequel repose toute la philosophie première. Et nous reviendrons demain là-dessus. Ceci est qu'est-ce l'être. Vous voyez comme c'est curieux. La grande question, qu'est-ce l'être? Je vois que l'être s'exprime par le verbe présent, l'infinitif. C'est curieux. Ceci est qu'est-ce l'être. L'infinitif a cet immense privilège que ça permet de séparer l'être de son attribution relative. Grâce à l'infinitif, l'être se tient sur ses pieds.